France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin avec au générique de ce 5-6. Un ambassadeur pour le climat bien nommé dans les chroniques littorales, il s'appelle Thomas Capitaine et on fera son portrait. Un retraité engagé aussi pour l'écologie, il nous appellera du Poitou à 6h moins le quart, c'est notre invité déjà debout. Il y a du beau monde aussi dans la playlist des visiteurs de Marc sur le très bel album Everything is Recorded, session d'écoute à 5h35. Et puis, on vous emmènera en Estonie à 5h40, le pays frontalier de la Russie vient d'augmenter son budget de défense. Puis, question orientation dans les petits bateaux, comment devient-on agent secret? On aura des éléments de réponse. Et puis, révolte, émeute, sédition, on parle de la sauvagerie des individus et des foules dans le Café Philo, c'est d'actualité et c'est juste avant 6h. Mais d'abord le journal d'Astrid Meignet-Carne. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Réarmer l'Europe et vite.
Réunis en sommet à Bruxelles hier, les 27 États membres ont redit une nouvelle fois leur unité et leur détermination à réarmer l'Europe. Ils ont surtout plaidé pour la mise en place rapide du plan à 800 milliards d'euros de la Commission européenne. Fabien Cazot.
Le plan à 800 milliards proposé par la Commission européenne était déjà connu et validé. Les 27 États membres souhaitent maintenant qu'il soit mis en place rapidement. Il prévoit notamment des prêts, de la souplesse pour les pays qui choisiront de s'endetter pour financer leurs dépenses militaires. Les chefs d'État et de gouvernement considèrent également comme une urgence la réforme des marchés de capitaux. Il s'agit notamment de proposer aux Européens de nouveaux produits d'épargne attractifs et de nature à financer la production et l'innovation en matière d'armement, une priorité pour le président du Conseil, Antonio Costa.
Nous trouverons des financements pour les entreprises innovantes. Aujourd'hui, il y a plus de 300 milliards d'euros épargnés par les familles européennes qui dorment hors d'Europe. Ce sont 300 milliards qui ne financent pas l'activité au sein de l'Union européenne.
Un effort financier qui devrait aussi bénéficier à l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a d'ailleurs appelé de ses voeux hier une accélération sur ces sujets, autant financiers que militaires. Le Conseil européen a enfin tenu à déplorer hier soir la violation du cessez-le-feu au Proche-Orient et la reprise des combats entre Israël et le Hamas.
Fabien Cazot, correspondant de France Inter à Bruxelles. Les 27 ne sont en revanche pas d'accord sur la mise en place d'un emprunt commun. Et à l'issue de ce sommet, Emmanuel Macron s'est exprimé. Le président de la République a annoncé un sommet à Paris jeudi en présence de Volodymyr Zelensky et des représentants de gouvernement qui seraient volontaires à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix négocié avec la Russie. Pendant que les 27 discutaient de la défense européenne à Bruxelles, les investisseurs et entreprises du secteur de la défense ont abordé sa mise en œuvre à Bercy. Pour accélérer la cadence de la production d'armes en France, le ministère de l'économie annonce la création d'un fonds d'investissement à 5 milliards d'euros et Éric Lombard invite par ailleurs les Français à participer à ce fonds, dont un demi-milliard sera financé par l'épargne des particuliers volontaires. Ticket d'entrée fixé à 500 euros.
Joël Le Skouarnec reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.
Et c'est la première fois que le pédocriminel dit oui à toutes les accusations de viol et d'agression sexuelle pour lesquelles il est jugé. 299 anciens patients l'accusent d'abus commis lorsqu'ils étaient mineurs. Jusque-là, l'ex-chirurgien disait qu'il s'expliquerait devant la cour criminelle du Morbihan au fur et à mesure des auditions de ses victimes. Cet aveu est donc un tournant dans le procès, estime maître Maxime Tessier. Il est l'un des deux avocats de Joël Le Skouarnec.
Il avait dit qu'il avait l'intention d'exprimer les choses, de reconnaître ce qu'il avait fait. Et il a, devant la cour criminelle départementale, reconnu les 299 faits qui lui sont reprochés. Il est essentiel, attention, que, bien entendu, l'audience continue à se faire d'abord parce que chacune des victimes a le droit au procès pénal, a le droit aux explications de l'accusé, aussi parce que les qualifications pénales demeurent en discussion, parce que pour certaines des qualifications pénales, l'accusé a reconnu plus que ce qui avait été même envisagé jusqu'ici par la poursuite. Monsieur Le Skouarnec a conscience des conséquences que cela implique. Conséquences, c'est-à-dire la possibilité de réouverture d'enquête, la possibilité de retrouver des victimes qui auraient été oubliées par la poursuite. C'est un acte qui dépasse toutes les déclarations d'intention. C'est un moment de justice et de vérité qui a eu lieu de la part de l'accusé.
Maître Maxime Texier au micro de Delphine Gauthier, ici Brice Zizel, et le nombre de victimes du pédocriminel pourrait être encore plus grand. Le parquet de Lorient ouvre une nouvelle enquête pour identifier celles qui auraient pu être oubliées. Elle est devenue le visage et la voix des victimes de violences sexuelles et de soumissions chimiques. Gisèle Pellicot va publier ses mémoires, un livre intitulé « Un hymne à la vie » édité en 20 langues. La septuagénaire est la principale victime de l'affaire des viols de Mazan. Elle a été droguée et violée par son ex-mari pendant plus de 10 ans. Dominique Pellicot, qui l'a livrée à d'autres hommes recrutés en ligne. Le conclave sur les retraites continue et veut repartir du bon pied. Les négociateurs, encore autour de la table, ont annoncé vouloir composer à leur manière. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, parle de relancer les discussions sur de bonnes bases. La CFDT veut-elle de nouveaux objectifs et son propre calendrier? Il ne reste plus que 3 syndicats et 2 organisations patronales engagées dans les concertations sur les retraites. La CGT, Force Ouvrière et l'organisation patronale des indépendants, l'UDP, ayant quitté la table. Des sanctions en cas de manquement au contrat d'engagement des bénéficiaires du RSA. Le ministère du Travail planche sur le sujet et envisage de suspendre de 30 à 100% l'allocation des plus précaires. Depuis le 1er janvier, les bénéficiaires du RSA doivent signer un contrat d'insertion sociale et professionnelle qui comprend parfois 15 heures d'activité par semaine.
Et puis un naufrage pour l'équipe de France masculine de football.
Un match à oublier pour les Bleus, balayés 2-0 par la Croatie hier soir en quart de finale aller de Ligue des Nations à Split en Croatie. Julien Froment, le retour du capitaine Kylian Mbappé n'a rien changé.
Hier, à la plus grande joie du public croate, le stade de Poljud a été le théâtre d'un naufrage collectif, celui des Bleus. Une première période catastrophique où il aura manqué de tout à une équipe de France qui n'aura rien montré sauf ses lacunes défensives flagrantes. Sans un bon Mike Maignan, l'addition aurait pu être encore plus salée. Il y a bien eu une réaction d'orgueil en seconde période, mais insuffisant pour sauver un match raté, le sélectionneur Didier Deschamps.
La qualité de l'adversaire en face fait que on a été puni. Tout ce qui a été préparation d'avant-match et de le tout début était en adéquation. Mais après, ça s'est vite désagrégé. Une erreur plus une erreur et ça nous amène à être plus fébriles.
L'attaquant Randal Kolo Muani, très discret hier soir, a avancé un argument pour le moins étonnant pour expliquer la contre-performance des Bleus.
Il faut qu'on soit prêt aussi à ne pas glisser comme on a glissé aujourd'hui et on n'était pas prêt, on va dire, sur cet après-là.
Pour éviter un nouveau dérapage incontrôlé, les joueurs de l'équipe de France ont tout intérêt dimanche au Stade de France à prendre les bons crampons. S'ils veulent espérer disputer en juin prochain le Final Four de la Ligue des Nations.
Julien Froment, et match retour pour l'équipe de France, donc ce sera dimanche au Stade de France. Une nomination historique à la tête du Comité international olympique. Le CIO a élu la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à sa tête. L'ex-nageuse 7 fois médaillée aux Jeux Olympiques devient la première femme et première africaine à être élue à la tête de l'autorité olympique en 130 ans d'existence. Elle succédera à l'Allemand Thomas Bach, Marion.
Et on en reparle à Astrid Meignier-Carne à 6h20 avec notre invité Jean-Loup Chapelet, qui est spécialiste des questions olympiques et qui sera donc l'invité de France Inter. Il est 5h08.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Ça souffle encore, Élodie Calac.
Un temps perturbé et toujours du vent, un vent fort au sud, surtout dans le domaine de l'OTAN, 100 km/h à Toulouse, jusqu'à 100 à 120 à Castres, sur le Lauragais, sur la Montagne Noire aussi. Haute-Garonne et Tarn restent en vigilance orange jusqu'en milieu d'après-midi. Des pluies gagnent les régions de l'ouest, elles seront parfois orageuses cet après-midi, copieuses vers les Pyrénées et les Cévennes. Il neige vers 2000 mètres. Ce soir, ce temps perturbé progressera vers la façade est avec quelques pluies en région parisienne, des pluies marquées et orageuses sur un quart sud-est. Avant cela, le soleil est encore présent sur ces régions, avec un voile nuageux de plus en plus dense par l'ouest. L'ambiance est encore très printanière, 16 à 20 degrés sous les pluies à l'ouest cet après-midi, pareil en Méditerranée, et 19 à 22 ailleurs.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. Un capitaine à rencontrer dans les chroniques littorales. Notre invité, déjà debout, un retraité du Poitou, encore très actif. Vous verrez ça à 6h moins le quart. Qui sont les bimbos? Éléments de réponse dans la chronique d'où ça sort. Et puis Charline Vanhoenacker explose les faits. Et ce matin, c'est le procès Sarkozy, toujours en cours. 9e semaine, c'est à 5h25. Mais avant les chroniques littorales, un détour par le Québec. Pierre Lapointe chante « Toutes tes idoles » sur France Inter.
Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Tu voudrais revenir en arrière, dormir dans le ventre de ta mère, refaire ta vie sans avoir peur, sans toutes tes conneries, tes erreurs. Mais tu te résignes sans y croire, en chantant tout ton désespoir sur une vieille mélodie, une suite d'accords défraîchis. Tu repenses au jour où tu croyais être aussi beau, être aussi vrai que ces poupées de paraffine, ces demi-dieux de magazine, perdu dans ton monde lointain, vivant seul au creux de ta main. T'as fait le deuil de tes rêveries, intrus dans ton propre pays. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Pour toi l'amour devient un jeu dès qu'un regard croise tes yeux. Usant de mille stratégies, tu gagnes à chaque fois la partie. Quand arrive la grande finale, tu les mords comme un animal, et tu disparais dans la nuit jusqu'à ta prochaine lubie. Tu n'aimes pas voir des gens qui pleurent, ça réveille en toi la douleur de l'enfant devenu trop grand qui a appris à s'armer jusqu'aux dents, paré à tout faire exploser pour une fois de plus nous prouver qu'il est un soldat solitaire, un vagabond au cœur de pierre. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. À force de chérir le passé, on finit seul épuisé. Un jour il faut faire la paix avec ses peurs, avec ses regrets. Il faut apprendre à dompter la bête blessée qui sommeille en nous avant qu'elle détruise tout. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche.
Toutes tes idoles, chansons tirées de l'album 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Pierre Lapointe sera en tournée au mois de mai avec un arrêt à l'Olympia, notamment le 12. Les chroniques littorales à 5h13. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées, vous le savez désormais, au portrait de Jean de Mer. Et ce matin, José-Emmanuel, vous recevez un ambassadeur marin plutôt bien nommé.
En la personne de Thomas Capitaine, Marion. Thomas Capitaine, bonjour.
Bonjour.
Thomas Capitaine, vous êtes ambassadeur pour le pacte climat. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est une fonction qu'on peut qualifier de symbolique, mais qui revêt, à mon sens en tout cas, une valeur extrêmement importante. C'est l'extension d'action citoyenne qu'on peut avoir dans la société civile en tant qu'acteur pour la planète, pour l'environnement, et qui permettent, grâce justement à ce prisme européen, eh bien, de grandir en influence, en importance, et aussi...
Alors, vous n'avez pas été nommé par l'Union européenne en tant qu'ambassadeur du pacte climat, mais vous vous êtes proposé.
Exactement, c'est une nomination en deux étapes d'une certaine manière. Il faut candidater, il y a des appels à candidature qui sont publiés sur le site de la Commission européenne. Donc pour candidater, il faut être un activiste, un militant, représenter un combat ou en tout cas alimenter les actions pour l'environnement et la planète. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si la cause est suffisamment juste, eh bien, on peut être sélectionné et nommé ambassadeur du pacte climat.
Nous sommes dans l'année de la mer 2025. Évidemment, votre action en tant qu'ambassadeur, ça sera la mer et l'océan.
Alors effectivement, mon cœur d'action, mon cœur d'activité aujourd'hui, moi, c'est très lié à l'océan, à la mer.
Vos actions à venir, quelles sont-elles ?
Bien, il y a plusieurs choses, beaucoup même d'ailleurs, on peut le dire. D'abord parce que l'actualité est brûlante, on a un agenda national et international extrêmement fort, que ce soit avec l'année de la mer, que ce soit avec la conférence océan des Nations Unies qui va se dérouler à Nice au mois de juin.
Et c'est la fameuse UNOC.
Exactement, et évidemment à laquelle nous allons prendre partie. Quand je dis nous, je parle de Thalas Océan et d'Engagé pour l'Océan.
Ça, ce sont vos deux associations.
Absolument, voilà, ce sont les deux entités qui ont chacune des missions propres et qui m'animent au quotidien pour justement être utile et faire avancer la cause de l'océan, surtout pour sa conservation. Et donc, les événements à venir, eh bien, il y a des conférences, il y a plusieurs événements qui ont décidé de s'engager pour l'océan. On a également un film qui est en diffusion dans plusieurs cinémas, qui a reçu des prix,
qui s'appelle
Héros de la Méditerranée française, et qui est le film de l'expédition que nous avons réalisé en 2022. En Méditerranée française, tout est dans le titre.
Vous nous avez parlé de vos associations Thalas Océan et Engagé pour l'océan.
Ben oui, effectivement, les deux sont extrêmement liés, surtout chronologiquement et avec une forme de cohérence très profonde. Thalas Océan, c'est une association qui a pour objectif d'organiser et mener des expéditions scientifiques, que j'ai créées en 2018. Et quand on veut mener ce genre de projet, eh bien, la première des missions, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver des moyens, trouver de l'argent. Et je me suis très rapidement aperçu que le contexte géopolitique, international, économique, particulièrement dans l'insécurité, le manque de vision longue pour les entreprises, eh bien, crée beaucoup de décalage entre les besoins pour mener des projets environnementaux et le niveau auquel étaient prêtes à s'engager les entreprises. Et c'est à partir de ce constat-là que le mouvement Engagé pour l'océan a commencé à naître pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement qui permet aux entreprises de s'engager en trouvant de nouveaux potentiels d'attractivité et de pouvoir s'engager sur le long terme à la préservation de la planète et de l'océan pour ce qui m'anime.
Thomas Capitaine, on parle beaucoup de la conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice en juin prochain, mais après cette conférence, on ne va pas s'arrêter là.
C'est toute la question et c'est une interrogation qui est croissante à mesure qu'on se rapproche de l'échéance. Qu'est-ce que l'UNOC va produire ? Est-ce que l'UNOC va permettre une prise de conscience ou est-ce que ça va être un rassemblement de plus au cœur de cette actualité internationale extrêmement bouleversée ? C'est une question qui, à mon sens, mérite une réponse très vite, très rapide et qui ne devrait d'ailleurs même pas être posée tellement l'urgence est là en ce qui concerne le monde marin. Et parce que je suis un optimiste résolu, je porte beaucoup d'espoir sur cet événement. Je pense que les sujets qui vont être abordés vont être absolument cruciaux, à la fois en termes de souveraineté énergétique, alimentaire. Forcément, le sujet de l'intégrité de la souveraineté des territoires va être abordé. J'espère sincèrement que cette UNOC va marquer d'une pierre blanche la façon dont l'humanité considère le monde marin dont finalement nous dépendons tous.
Merci à vous, Thomas Capitaine. Un site internet, c'est en anglais, engageforocean.org. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin sont très variées. Il y a toujours bien sûr le Conseil européen, centré encore une fois sur les questions de défense face à la Russie. Le front fissuré des Européens, titre Le Figaro. Menace de Trump sur le champagne et le cognac, la grande inquiétude des viticulteurs. C'est le commentaire de la photo sous ce titre de une. Guerre commerciale et bouteilles de cognac par dizaines sur ce cliché. Les échos tournent autour aussi de ces sujets géopolitiques et économiques. Le quotidien fait un gros plan sur cette ruée mondiale vers les capitaux. En dessous, au milieu de la page de une, un président du MEDEF déterminé, les yeux dans l'objectif du photographe, main posée sur la table, costume sombre. Retraite, le MEDEF veut repartir de zéro, comme Marie-Lise Léon à la CFDT. Patrick Martin veut en effet redémarrer le conclave retraite sur une nouvelle base après la déclaration du Premier ministre sur l'impossible retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Au chapitre des finances publiques, encore, le Parisien s'intéresse à la flambée des fraudes à la sécurité sociale, des arnaques de plus en plus sophistiquées, annonce le journal. On apprend à l'intérieur qu'elles sont majoritairement le fait des professionnels et non des simples citoyens. L'Humanité s'attaque en une à ce qu'elle appelle les 4 intox hausse de l'extrême droite à la veille d'une manifestation d'associations et de partis de gauche. Immigration, islam, sécurité, économie, c'est le menu affiché par le journal. Seule l'équipe a le courage d'aborder la douloureuse défaite des Bleus en Ligue des Nations de football. Battue 2-0 en Croatie hier, la une du quotidien sportif l'illustre bien. Face au mur, le titre claque alors que le capitaine Kylian Mbappé heurte de plein fouet un adversaire. Et puis ça fait du bien, il y a ceux qui font le choix des bonnes nouvelles ce matin. Mucoviscidose, l'espoir de nouveaux traitements, titre La Croix. Le journal affiche en une la photo d'un garçon à vélo qui a bénéficié d'un de ces nouveaux traitements contre la maladie. Et puis un magnifique volatile s'envole en une de Libé avec les piafs, la vie en rose, chantonne le quotidien. En effet, des études scientifiques récentes montrent les bienfaits du chant des oiseaux pour lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression. Alors ouvrez grand vos oreilles. À 5h20, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, on parle d'hyperféminité, plus précisément de la bimbo contemporaine. Alors Cyril, d'où sortent-elles les bimbos d'aujourd'hui ?
Eh bien, ça sort d'un mot bimbo. Et bimbo, ça vient de l'italien. Ça vient de bambino. Et qu'est-ce que ça veut dire, bambino ? Eh bien, ça veut dire petit garçon. Donc, rien à voir avec la bimbo qu'on connaît aujourd'hui et dont on va parler. Et donc, à des lustres de cette hyperféminité qu'on explore. En italien, bimbo, ça veut dire gamin. Et on dit bimba pour une jeune fille. Et puis, ça a basculé à cause de qui ? Eh bien, à cause des Américains. Bimbo a traversé l'Atlantique grâce à l'immigration italienne. Et quand il arrive aux États-Unis, ce mot, le terme désigne plutôt à ce moment-là un homme un peu simplet. Toujours, rien à voir donc avec les femmes. Et puis, c'est à partir des années 20 que son sens bascule. Terminer les enfants, terminer les mecs un peu concons, bimbo va devenir la bimbo. C'est-à-dire une femme séduisante, mais toujours un peu concon.
Et puis les années 50 vont marquer un tournant.
Marilyn Monroe, blonde, poitrine généreuse, le plus souvent utilisée dans des rôles de femmes un peu naïves. Marilyn est LA femme fatale par excellence, et donc LA bimbo. C'est avec elle que le terme s'ancre définitivement dans cette image. Pamela Anderson incarnera aussi cette femme à la féminité exacerbée, sexualisée et objet de fantasme. Britney Spears en sera une aussi, avant que la bimbo ne se réinvente aujourd'hui. Terminer l'image de la femme un peu concon, qui se fait manipuler, la bimbo désormais, elle est aux commandes de sa vie.
Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël, Zoom Zoom Zen hier, tous les deux reviennent à 16h cet après-midi en direct du festival Série Mania de Lille, 5h21 sur France Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker, mais tout de suite, on met un pied hors du lit avec la chanteuse londonienne Green Tea Peng, One Foot.
One foot front and back again. Don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to surf, my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Is it too late for me? One foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me?
c'est One Food de Green Tea Peng. Elle sort aujourd'hui son deuxième album et elle sera en concert au Trianon à Paris le 20 mai prochain.
France Inter.
Et à 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, vous le savez, elle explose les faits. Et mercredi, elle revenait sur le procès Sarkozy.
9 semaines déjà que Nicolas Sarkozy et 3 anciens ministres subissent l'acharnement de la justice. Ne les oublions pas. Ce serait un grain de notre part, tant Nicolas Sarkozy a fait les belles heures de l'humour. Il a dit de ce procès, si c'était une série, on dirait que le scénario est invraisemblable. Moi, je pense que 9 semaines à l'affiche... C'est que le film est bon. Mention spéciale au dialogue, toujours. Hein. Sur Mediapart, tous les articles liés à l'affaire sont en accès libre. Il y a même un onglet anecdote, tellement il y a des pépites. Exemple, en remontant la piste d'un compte aux Bahamas d'un ex-proche de Sarko, les enquêteurs découvrent l'achat chelou d'une villa en Colombie et de 2 bars baptisés Nibar et Nichon.
Non.
Si. Vous rigolez pas, c'est que vous n'aimez pas les bonnes comédies. Hein. Alors, je vous lis le papier de Mediapart. Non. Au moment de l'achat du Nichon, Thierry Gobert, l'ex-pote de Sarko, donc, était chargé de mission auprès de Jean-François Copé au secrétariat d'État des relations avec le Parlement. Il semblerait que le Nichon et le Nibar accueillaient occasionnellement des prostituées. L'intéressé nie en bloc. Mais enfin, quand t'appelles ton bar Nichon, hashtag de l'argent occulte en Colombie... Allez, c'est sûrement un club de bridge. Les comptes rendus de ce procès sont tellement savoureux, la couverture médiatique ne lui rend pas hommage, je trouve. Je comprends qu'il y ait une lassitude. Sarkozy est au tribunal tous les 6 mois, donc c'est quand il n'y est pas que c'est un scoop. D'un autre côté, à Mediapart, ils ont tellement couvert l'affaire, qu'ils ont révélé, hein, qu'après le verdict, il faut s'attendre à un plan de licenciement de la moitié de la rédaction. Mais dans un contexte d'actu anxiogène, voilà, c'est mon petit conseil lecture. Voilà. Ça et la une de Paris Match cette semaine.
Ah bah oui.
Rien à voir, je vous laisse découvrir. L'affaire Libye. Donc, l'épisode où on apprend que Claude Guéant a loué à la banque un coffre-fort tellement grand qu'un homme peut y tenir debout. Génial ! Non. Après Carlos Ghosn dans la malle, Claude Guéant dans le coffre-fort. Il explique que c'était pour stocker les discours de Sarko. Si seulement quelqu'un avait pu lui révéler l'existence de la clé USB, tant de malentendus auraient pu être évités. Résultat, l'hypothèse la plus probable, c'est que les discours étaient rédigés sur des billets de 500. En tout cas, aujourd'hui, le coffre peut servir à stocker les 1300 procès-verbaux et les 500 scellés rassemblés par la justice. Lundi, le policier chargé de l'enquête a donné les chiffres. 60 perquisitions, 180 auditions et 12 800 cafés bu par Fabrice Arfi. Pour bien se rendre compte, à la recherche du temps perdu, 2400 pages. À la recherche de l'argent libyen, 1300 procès-verbaux. 60 perquisitions! Les flics ont passé plus de temps chez les proches de Sarko que dans leur famille. À France Inter, le procès est couvert par Charlotte Piret. Et je vous laisse découvrir l'histoire de l'armoire métallique avec des liasses de billets de 5 cm d'épaisseur. Parce que si c'est moi qui raconte, vous allez dire que j'exagère, bien sûr. Éric Woerth, le trésorier de la campagne, avait oublié de déclarer des dizaines de milliers d'euros de dons en espèces. Pour sa défense, il répond « On n'a pas non plus nagé dans un océan de billets ». En tout cas, c'est sûr qu'il ne s'y est pas noyé, puisqu'il est toujours député et membre de la commission des finances de l'Assemblée. Et je vous dirais, tant qu'il est au tribunal, au moins, il n'est pas sur un plateau de télé en train de nous expliquer qu'il faut bosser jusqu'à 75 ans. Voilà. Et puis, il y a des tas de dossiers périphériques liés à l'affaire. Un dossier périphérique dans le dossier libyen, c'est juste la vente de 12 Airbus à la Libye. Voilà. Enfin, chaque fois que l'ex-président ou ses proches avancent une explication, elle est ruinée par des témoins. Bref, le seul moment où Sarkozy n'a pas été contredit, c'est quand il a donné son nom et sa date de naissance.
France Inter.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain samedi à 19h20 pour Bistroscopie, également en direct de Cérémania à Lille. Dans une poignée de secondes, le journal.
Prochainement sur France Inter.
Je la connais par cœur.
Et je te jure
oui,
que
c'était
non.
Très bizarre.
Leur émission est déjà en soi un feuilleton.
C'est juste une manœuvre de Quentin.
Oui. Mais non, arrêtez, on
ce vendredi, si elle n'a pas éclaté d'ici là, toute l'équipe de Zoom Zoom Zen fêtera l'ouverture du festival Cérémania en direct de Lille.
On est bien logé au Carlton comme l'année dernière, hein.
Ah non, on peut pas y retourner maintenant. Quentin avait pété une fenêtre. En plus, on n'a jamais remboursé.
Mais on va loger où alors?
Ils ne savent pas où ils vont dormir. Mais ils seront en direct et en public à l'auditorium de la Chambre du Commerce de Lille ce vendredi de 16h à 18h.
5h28 sur France Inter. Ali Badou vient de me rejoindre dans ce studio, grand sourire et forme olympique pour un avant-goût du 6-9. Bonjour Ali.
Merci, forme olympique d'ailleurs, l'expression est très bien justifiée. Bonjour Marion, elle est justifiée cette expression puisqu'à 6h20, après l'élection de Kirsty Coventry à la présidence du Comité international olympique hier soir, votre invité sera Jean-Loup Chapelet qui est professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions olympiques. Et à 7h45, le débat éco du vendredi Sylvie, Dominique Seux, Thomas Porchet, le conclave sur les retraites était-il mort-né? Et à 8h20, le grand entretien, notre invité sera le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Voilà pour le programme, Marion.
Merci Annie, et on attend Astrid Meyer-Kern qui doit venir nous présenter le journal de 5h30. Donc
elle ne devrait pas tarder puisqu'il est 5h29 secondes, et 30 secondes.
La voilà qui arrive.
Ce fut comme une apparition, comme disait Flaubert. Le temps de vous asseoir et de prendre votre souffle.
Respirez.
Bonjour.
Je respire, tout va bien.
France Inter et les 5h30. Alors Ali, car voici le journal d'Astrid Meyer-Kern. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous. La France, comme les Européens, accélère la cadence du réarmement à Bruxelles. Les 27 pays de l'Union ont planché encore sur le plan de défense européenne. Et au même moment, à Bercy, les ministres des Armées et de l'Économie présentaient les pistes de financement réclamées par le président de la République. Ce matin, c'est François Bayrou qui sera à Bourges pour visiter l'entreprise qui fabrique une partie du canon César qu'on retrouve sur le front ukrainien. Notamment, le gouvernement se met donc au garde à vous, Julien Nenni.
Il n'en est pas encore à revêtir un treillis ou à déambuler au garde à vous.
Le monde que nous avons connu n'est plus.
Mais hier à Bercy, devant les acteurs financiers et industriels de la défense, le ministre de l'économie Éric Lombard s'est essayé à un ton plus martial.
La mobilisation de toutes les composantes de notre secteur financier est décisive pour les temps qui s'annoncent. Ce financement m'apparaît plus que jamais comme le nerf de la paix.
Oubliez pour un temps les négociations sur le budget et le conclave sur les retraites, Éric Lombard comme François Bayrou sont passés en mode défense, au point d'éclipser le reste de l'agenda politique. Si le gouvernement ne fait pas ce coup de booster sur notre défense, rien ne bouge, appuie un proche d'Emmanuel Macron. Encore faut-il embarquer l'opinion. Alors hier à Bercy, Éric Lombard et son collègue des armées Sébastien Lecornu ont tenté de mobiliser pour l'un.
Nous n'avons jamais eu autant de candidatures pour intégrer les réserves des armées. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers de nos compatriotes en disant « comment on peut aider ?»
et de rassurer pour l'autre.
L'État ne fera jamais main basse sur l'épargne des Français.
Dans un sondage récent, 70% des Français pensent que la défense doit être une priorité budgétaire, mais moins d'un sur deux se dit prêt à utiliser son épargne pour y participer.
La France et l'Europe en ordre de marche, notamment pour protéger l'Ukraine donc de l'agression russe. Et hier, à la sortie du sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est exprimé. Le président de la République a annoncé un autre sommet à Paris jeudi en présence de Volodymyr Zelensky. Sont invités aussi les représentants des gouvernements qui souhaitent apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois un accord de paix négocié avec la Russie. Les avions cloués au sol et les passagers évacués à Londres, l'aéroport Heathrow fermé en raison d'un immense incendie et d'une panne de courant géante. Le plus grand aéroport d'Europe sera fermé jusqu'à minuit ce soir au moins.
Israël continue de pilonner Gaza.
Offensive dans les airs, au sol, l'armée israélienne est partout dans l'enclave palestinienne pour faire pression sur le Hamas. Tel Aviv réclame le retour des derniers otages israéliens enlevés dans l'attaque du 7 octobre. Depuis 3 jours et la reprise des bombardements, plus de 500 personnes sont mortes, plus d'un quart des victimes sont des mineurs, selon la défense civile palestinienne. Les hôpitaux sont donc débordés. Thibault Lefebvre, vous avez recueilli entre deux opérations le témoignage d'un chirurgien de l'hôpital Al-Nasser de Ran Younes, au sud de Gaza.
Le docteur Khaled Al-Ser a la voix lasse, fatiguée. Après 3 jours passés à l'hôpital, à opérer et puis s'assoupir par moments, seulement quelques heures, Khaled Al-Ser s'occupe d'une vingtaine de patients.
We saw many children. We have several kinds of casualties.
On a vu passer beaucoup d'enfants. Il y a des blessures plus ou moins graves. On a par exemple des patients qui ont été bombardés quand ils dormaient sous leur tente. Ils ont été mutilés par des explosions.
Avec la fin des livraisons d'aide humanitaire et de fuel, certains médicaments manquent et des patients meurent faute d'une prise en charge plus rapide.
Les gens utilisent des ânes pour amener les blessés à l'hôpital. De toute façon, nous n'avons plus assez de voitures pour les transporter.
Mais le plus dur pour le docteur Al-Ser, c'est la morgue, quand il faut chercher des disparus au milieu de dizaines de dépouilles.
Je cherchais mon beau-père. C'était un moment difficile parce que le seul moyen pour reconnaître un corps, c'est de vérifier chaque cadavre. Et l'un de ces corps, c'était celui d'un enfant de 12 ans, complètement brûlé. Essayez juste de vous rendre compte.
Et le docteur l'assure, parmi tous les morts, l'écrasante majorité étaient des civils désarmés, pour la plupart tués dans leur sommeil.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Et hier, pour la première fois depuis le mois d'octobre, le Hamas a répliqué avec l'envoi de 3 roquettes sur Tel Aviv. Adoptée en urgence avant le salon de l'agriculture début mars, la loi d'orientation agricole censée répondre à la colère des agriculteurs partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel hier. Les sages disent non au principe de bonne foi accordé aux agriculteurs au moment des contrôles, ainsi qu'à la présomption de non-intention pour certaines pollutions de l'environnement. Au total, c'est près d'un tiers des articles du texte qui ont été totalement ou en partie censurés par le Conseil. 31e édition du SIDAction à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. 3 jours de mobilisation et de sensibilisation à la lutte contre le virus du VIH. Cette année, la directrice du SIDAction appelle à mettre le paquet au moment où la lutte contre le sida est menacée par les coupes budgétaires américaines et au même moment où les dernières études montrent que le niveau des fausses croyances chez les jeunes est inquiétante. Près d'un jeune sur deux croit que le VIH peut se transmettre par un baiser, Marion.
Ce qui n'est donc pas le cas. C'était le journal d'Astrid Meignier-Carne. Bonne journée de printemps, Astrid. Moins printanière qu'hier, quand même. Le temps perturbé s'installe sur l'ouest avec de nouvelles pluies sur le sud-ouest dès ce matin. Elle touche aussi le Languedoc-Roussillon et la Bretagne. Ailleurs, le ciel est voilé, voile épais en Normandie et vers l'Auvergne. Cet après-midi, la perturbation s'étire de la Normandie à l'Occitanie, avec quelques coups de tonnerre possibles sur le sud et des fortes pluies sur les Cévennes. Près de la côte aquitaine, prévoyez un temps sec, ciel chargé sur la Corse. Le vent surtout reste violent. Le vent d'autan jusqu'en milieu d'après-midi avec des pointes à 120 km/h en région toulousaine. Le vent d'est sur le littoral méditerranéen. Attention aux vagues avec un risque de submersion côtière. Ce soir, des pluies orageuses circuleront en Provence, Drôme, Isère. La perturbation gagnera le bassin parisien et le nord. Côté thermomètre, on dépasse les moyennes de saison. Prévoyez 15 à Perpignan, 16 à Brest et Nice, 17 à Tours, Limoges, Toulouse et Rennes, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Nantes, 20 à Marseille, 21 à Paris, Lyon, Strasbourg, Lille et Biarritz et 22 à Nancy et Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de plonger dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez de Everything is Recorded et de leur nouvel album en forme de jeu de tarot. Alors, c'est pour jouer à plusieurs ou bien pour la cartomancie pour lire l'avenir ?
Les deux, mon général, ça se joue à plusieurs et il est question de la vie et de la mort. Focus on you. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines. Where stars shine. Créature de la nuit, c'est à ton tour de briller dans les lampadaires. Tu trouveras ton espèce, on est des tatous, des porcs épiques. Nous sommes la lumière des étoiles.
Ça c'est bien vrai.
Ouais, c'est traduit grosso modo. Hein. Voilà un disque qui s'écoute comme on regarde une chandelle et le titre résume tout. Temporary, c'est une méditation sur la brièveté des choses. Et dans un objet qui pourtant est fait pour durer, hein, un disque bien solide avec sur la pochette des cartes de tarot disposées sur une table. Un album dense comme on en fait peu. Dans le son et la forme avec plein d'invités. Là, vous entendiez le songwriter Bill Callahan, celui qui a la voix grave. Mmh. Et puis, en duo avec Noah Cyrus. Et oui,
ah oui.
Oui, vous demandez, c'est la petite sœur de Miley Cyrus.
Ben voilà.
Tous deux réunis sous la houlette de Richard Russell, DJ, producteur anglais. Il a travaillé avec Adele, Prodigy, Bobby Wuma, qui dirige XL Recording. C'est peut-être le plus influent des labels indépendants de ces 20 dernières années. Il a beau être hyper entouré, il sait ce que c'est que d'être vulnérable. Écoutez ce morceau sur la solitude, voulu et subi, My Enemy. I don't know where my enemy is. I'm looking in the mirror that he is. Butterfly talking in the mist, whispering the armor is a myth. And I don't need your clothes, that's a lie. I don't need your know, that's a lie. I don't need to know, that's a lie. I just wanna be alone, that's a lie. If I share these problems might get multiplied, cause you're gonna try and solve them and I don't know why. Cause you're gonna try and solve them and I won't comply. You must have been talking to that butterfly. C'est beau.
Everything is Recorded, le projet de Richard Russell avec plein de voix, de talents invités.
Voilà, on entendait la Sampha, aussi Laura Groves, Alabaster de Plume, j'adore son nom.
Oui, c'est beau.
Lui, un saxophoniste, orateur anglais. Ah. Je pourrais écouter ce morceau éternellement, hein, cette petite flûte-là. Et ce disque, vous le percevez peut-être, il est beau, mais plein de contrastes, de contraires. Il est question de l'absence et de la présence intense de quelqu'un que l'on a perdu. Temporary est peut-être, j'ai pu lire ça, l'un des disques les plus doux jamais enregistrés sur la mort. Mmh. C'est peut-être pas faux. Une question qui a en tout cas probablement traversé Richard Russell lorsqu'il combattait une maladie rare dont il a été atteint, le syndrome de Guillain-Barré. Alors, il va mieux, mais tout a pris un sens profond pour lui. Tout est devenu important à commencer et ça s'entend par sa musique. Vous croiserez dans Temporary les voix de Florence and the Machine, le saxophoniste Kamasi Washington, Laura Groves, un certain Jawobble à la basse, à la trompette Yaz Ahmed et aussi Sampha.
Disconnected from myself, I'm disconnected from my health, I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart, and I wonder where you are. Yeah, I wonder where you're staying. You didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then, but you never do. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then, but you never do. Lost a friend, I've lost another. Lost a friend, I've lost another. Is it therapy? Is it love?
Dying, but I wasn't crying no more. There's a face in the tree and it's dying, and I wasn't scared no more. I'm scared of losing you. Can you make me smile?
L'album Temporary est disponible partout chez les disquaires et sur les plateformes d'écoute. Le genre de recommandation que vous nous faites tous les vendredis soirs, Mathieu.
Et je remets le son, et ce soir, des nouveautés venues des Antilles, de Londres, de Puerto Rico, du Venezuela et de Paris.
Eh ben bon voyage.
Embarquement prévu à 21h.
Armez les toboggans, à ce soir. À 5h42, le Zoom de la rédaction nous emmène en Estonie avec cette décision prise il y a deux jours par le gouvernement estonien. Augmenter le budget de la défense pour mieux préparer le pays à une éventuelle attaque russe. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous revenez de Narva, ville située sur la frontière entre l'Estonie et la Russie. Et les habitants prennent cette menace très au sérieux.
Cette menace, elle se mesure au nombre de volontaires qui ont rejoint la Ligue de défense estonienne. L'organisation regroupe près de 40 000 personnes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 1000 femmes se sont inscrites. Et à Narva, c'est dans un stand de tir qu'elles s'entraînent avec des pistolets et des armes automatiques.
Start.
My name is Olga Shostrova.
Je m'appelle Olga Shostrova.
Я работаю в школе учитель физкультуры.
Je suis prof de sport dans une école.
Готова просто защищать себя.
J'ai surtout appris à me préparer.
Защищать свою семью.
Pour pouvoir me défendre et défendre ma famille.
Now I have own gun and
maintenant j'ai mon propre pistolet et puis j'ai un permis.
Votre famille, vous, elle est des deux côtés de la frontière?
Oui, de l'autre côté. Mais en tant que membre de la Ligue de défense, je n'ai pas le droit de me rendre en Russie.
Je suis Bilevi Helgas.
Je suis entraîneur bénévole pour la Ligue de Défense depuis 2015.
Qui est-ce qui vous rejoint aujourd'hui ?
Certaines sont femmes au foyer, d'autres sont des sportives qui ont commencé le tir comme un hobby, ou même depuis l'école.
Tout le monde parle de la possibilité d'être prêt, et à la fois, ce mot de guerre, personne ne veut le prononcer.
On ne veut absolument pas penser à la guerre. Non. En théorie, je suis prête, mais dans le monde réel, je ne veux vraiment pas y penser.
Pour le gouvernement, pas d'hésitation à avoir. L'an dernier, les gardes-côtes russes ont déplacé des bouées qui marquaient dans la rivière Narva la frontière entre les deux pays. En décembre, c'est un navire russe qui a sectionné un câble au moment où l'Estonie s'apprêtait à basculer son alimentation électrique sur le réseau européen. En réponse, le ministre de la Défense, Anno Pevkur, vient de faire voter une augmentation de 2% du PIB, du budget consacré à l'armement et à la sécurité.
On va recevoir de nouvelles munitions, donc on a besoin de construire des entrepôts pour les stocker. Pour nous, c'est très important qu'on fasse le maximum tant qu'on est encore en période de paix. On a acheté des canons César français, et puis on est entré dans un processus de fabrication de centaines de nouveaux bunkers pour sécuriser certains endroits.
Et le gouvernement estonien cherche aussi à faire disparaître les traces de l'Union soviétique.
Avec des écoles de langue pour intégrer les descendants des Russes venus à Narva dans les années 50 et dont les arrière-petits-enfants ne parlent toujours pas estonien. Il y a aussi l'interdiction du russe dans les établissements scolaires et la disparition des symboles, statues de Lénine, monuments aux morts, anciens chars soviétiques, des disparitions qui font monter la tension au sein de la population russophone, comme dans ce garage situé en face d'une ancienne usine.
Je m'appelle Vladimir.
Alors qu'on décrive, sur le mur, on a à la fois le portrait de Lénine, le portrait de Staline, on a
les tsars.
En Estonie, tout ça, c'est interdit. On ne peut pas afficher ces symboles, mettre des drapeaux à l'extérieur. Si vous en avez à la maison, ça va, mais à l'extérieur, ce n'est pas possible. Mais bon, personne ne peut savoir ce que vous avez au fond de votre cœur.
Vous avez un peu la nostalgie de cette époque-là ou pas du tout ?
Non, mais tout a changé. Pendant la période de l'Union soviétique, tout le monde avait un appartement et du travail. Maintenant, tout le monde est devenu businessman.
Reste aussi le poids de l'histoire. Les archives du KGB, emmenées à Moscou juste avant l'indépendance, en 1991, n'ont jamais été ouvertes. Aucune distinction entre ceux qui, il y a 30 ans, résistaient ou dénonçaient leurs voisins. Ce sont leurs petits-enfants qui sont face à face aujourd'hui.
Le zoom d'Antoine Gignot en Estonie, reportage à retrouver en intégralité dans Interception, le grand magazine de la rédaction, dimanche après le journal de 9h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Il est 5h46, c'est l'heure de décrocher notre téléphone et de contacter notre invité déjà debout, Jean-Luc Herpin, retraité actif à Mignaloux-Beauvoir dans la Vienne. Bonjour.
Bonjour Marion.
Alors pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Oh ben je pense, c'est un rituel, c'est dans mes gènes je pense. je sais pas, depuis très longtemps, depuis que je suis ado, j'ai pris l'habitude de me lever de bonne heure. Enfin je suis réveillé de bonne heure parce que j'adore découvrir le lever du soleil, le lever du jour, le chant des oiseaux, du coq en particulier parce que je suis né à la campagne. Voilà, donc... C'est un vrai bonheur.
Vous donnez envie de se lever, hein, Jean-Luc. À quoi ils ressemblent vos petits matins, à part le chant du coq ?
Eh bien, debout vers 4 heures. La plupart du temps, c'est l'heure où arrive sur Internet le journal local qui s'appelle La Nouvelle République, là, que je prends le temps d'éplucher à l'écran. Mmh. Donc j'envoie quelques messages... quelques articles aux copains. Alors, des fois, il y en a qui sont pas contents parce que ça les réveille en pleine nuit. Et donc ça m'occupe ça, bon, presque une heure, hein, le temps de faire le tour. Alors, moi, il faut dire que je suis natif de la Vienne, donc je suis intéressé par tout ce qui s'y passe. Ça me permet de faire un tour aussi d'actualité. Alors, et puis, en même temps, j'écoute France Inter.
Ah ben voilà, ça c'est une bonne chose. Natif de la Vienne, mais vous avez quand même pas mal bougé hein, dans votre vie avant de revenir vous installer ici.
Oui, j'ai surtout bougé en Afrique. Et donc je suis parti à la place du service militaire, j'ai fait un service actif, volontaire au service national actif à Alger. J'étais prof au lycée technique d'Alger pendant 2 ans. Et ça m'a permis de découvrir l'Algérie 11 ans après l'indépendance. Mmh. Et on a de la peine à imaginer qu'il y a 11 ans là-bas, il y avait la guerre, avec toutes les atrocités que l'on sait aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi les guerres, je ne sais pas à quoi ça sert. On va faire des tristesses et des morts. Et puis après, je suis revenu en France, j'ai passé le concours éducation nationale, et je suis reparti en 83, parce que je me voyais mal jusqu'à la retraite rester dans le même lycée.
Oui.
Et donc je suis atterri au Mali, à Bamako, et j'ai commencé à regarder sur une carte où c'était, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup du Mali.
Oui. Et vous l'avez quitté en 91, donc 8 ans après ?
Voilà, j'ai quitté à cause du coup d'État. Enfin bon, j'arrive au terme de mes contrats. Parce qu'on avait des contrats de 2 ans en tant que prof de coopération. Et après, ça a été des très très belles années.
Et maintenant, alors aujourd'hui, vous présidez une association qui s'appelait la Mie de Pain des Fours et des Moulins. Et puis elle a changé de vocation en quelque sorte.
Voilà, il y a 2 ans, on a... Alors, la Mie du Pain des Fours et des Moulins, comme son nom l'indique, elle était dédiée un peu au pain traditionnel et au four à pain. Donc, c'était l'idée de faire revivre les fours à pain anciens, y compris les moulins. Et puis, on faisait des stages donc avec des boulangers pour remettre ces fours en route. Et puis, depuis 2 ans, on s'est plus orienté sur la cuisson solaire. Donc, maintenant, ça s'appelle l'Amicale de l'énergie solaire et solidaire. Il y a toujours cet esprit de solidarité chez nous. Et donc, c'est de faire découvrir l'énergie solaire, et notamment à travers la cuisson solaire. Mmh. Et on fabrique en stage des fours solaires. Nous en avons fabriqué 11 l'an passé. Voilà, donc les gens s'inscrivent au stage et repartent avec leur four, un grand four de 1m40 de diamètre, qui permet de cuire un poulet comme dans un four traditionnel, dès lors qu'il y a du soleil.
Mais vous êtes un grand défenseur de l'énergie solaire ?
Des énergies renouvelables d'une manière générale, oui. Tout à fait opposé au développement d'énergie nucléaire, qui est une catastrophe. Nous, dans la Vienne, on a hérité d'une centrale nucléaire à l'époque...
Celle de Civaux ?
Celle de Civaux. Les deux plus gros réacteurs sur la plus petite rivière, ce qui pose d'énormes problèmes de refroidissement en eau, et avec le débit des rivières qui va diminuer, on n'a pas fini d'en baver.
En tout cas, vous êtes...
Ils sont à faire des forages pour aller capter l'eau dans les nappes phréatiques pour refroidir le réacteur en cas de problème.
En tout cas, vous êtes un fervent partisan aussi de l'écologie. On l'entend, hein, Jean-Luc Herpin, retraité actif. Donc, vous êtes déjà levé depuis un moment. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter. Je rappelle que vous êtes à Mignaloux-Beauvoir, dans la Vienne. 5h51 sur France Inter. La réponse à toutes les questions des grands, à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux. C'est avec Camille Cronier et avec ses invités. Et aujourd'hui, une belle perspective de carrière. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, mission espion.
Je m'appelle Justin et j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir comment on devient agent secret.
Et tu l'as fait, bravo Justin, comment on devient agent secret? Peut-être une petite vocation à 5 ans et demi, je ne sais pas. En tout cas, je suis avec un agent secret, un vrai pour te dire, enfin, ancien agent, hein, sinon il ne serait pas à s'exposer dans les petits bateaux. C'est vous, Vincent Crouzet, alias quoi? Tiens, d'ailleurs, vous aviez un pseudo?
Alors, je pouvais avoir un pseudonyme qui était Victor.
Vous étiez Victor l'espion.
Voilà, Victor l'espion. Et... Justin, écoute, il y a 3 manières pour devenir agent secret. La première, si tu travailles très bien, quand tu sors d'une grande école, tu peux passer un concours pour devenir en fait un super agent secret, ce qu'on appelle un officier traitant, qui va être en contact avec plusieurs sources qui vont pouvoir t'informer. Mais il faut être très bon à l'école, parce qu'on en prend 20 ou 40 par an pour 2000 personnes.
Ah oui.
Oui, donc il y a énormément de candidatures. Et donc, il faut être assez bon, et il faut que tu aies fait une grande école ou Sciences Po, et ensuite tu peux prétendre à ce concours. Et puis après, si tu as des talents particuliers, c'est-à-dire si tu parles très bien une langue étrangère, si tu es bilingue en arabe, en russe, en chinois, là tu vas te donner des chances d'être recruté directement par les services secrets de ton pays, en l'occurrence si tu es français par la DGSE. Par exemple, si tu es très fort en informatique, parce que tu sais maintenant le monde de l'espionnage passe énormément par l'informatique, par ce qu'on appelle le cyber, et donc on recherche énormément d'ingénieurs, de jeunes talentueux pour l'informatique, mais il faudra que tu fasses un petit effort sur ton salaire, parce que tu seras beaucoup moins payé à la DGSE que dans le privé, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Et puis, il y a une troisième possibilité. Si tu es militaire, alors là, il faut que tu te sois engagé dans les armées et que tu as des compétences particulières. Par exemple, si tu es tireur d'élite, eh bien, tu peux intéresser le service secret de ton pays. Parce que si tu es très bon dans ton domaine, eh bien, effectivement, ils vont te recruter pour tes compétences.
Vous, vous êtes arrivé comment à être agent secret, Vincent Crouzet ?
Alors, moi, c'est un peu particulier. En fait, j'ai été repéré pendant mon service national par l'adjudant-chef de la sécurité militaire de la base aérienne sur laquelle je faisais mon service national.
Et j'imagine, vous dites, il faut être très fort dans toutes les matières, du coup, hein, j'en déduis. Il faut aussi savoir être discret quand même, non ? Quand on est agent secret, enfin, ça fait partie des talents indispensables.
Il faut être discret, mais pas trop. Il faut savoir se comporter normalement. Parce que si on est trop discret, qu'on se cache, qu'on a l'impression d'être paranoïaque, ben ça fonctionne pas. Donc il faut, voilà, il faut se comporter normalement, savoir s'adapter, communiquer avec les autres, être en empathie avec les autres pour gagner leur confiance.
Et vous, quand vous aviez 5 ans et demi, l'âge de Justin, vous aviez cette vocation éventuelle ou pas du tout ?
Non, un peu plus tard. Chez ma grand-mère, il y avait des romans d'espionnage et j'ai découvert les romans d'espionnage peut-être un peu trop tôt pour mon âge, mais j'ai adoré lire les James Bond, les OSS 117, ma grand-mère lisait des choses improbables. Probable. J'ai adoré ça et effectivement, ça a construit un petit peu mon imaginaire.
Et quelle réalité après un sacré métier. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux de Camille Cronier. Vous revenez Camille juste après le journal de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de déguster notre café philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Alors, pas besoin de boire un café serré de bon matin, hein, là, parce que le sujet que vous nous proposez est suffisamment musclé comme ça.
Effectivement Marion, puisque nous allons parler de force, de pouvoir, peut-être même d'une certaine sauvagerie. Mm-hmm. De celle qui met le corps à rude épreuve, qui lui hérisse le poil de peur ou de colère. Alors, appelez ça révolte, émeute, sédition, tous ces mots ne sont pas exactement synonymes, mais tous ont trait à quelque chose de structurel chez tout être humain, à savoir la violence.
Vous êtes en train de nous dire que la violence, c'est un trait archaïque des humains.
Ouais, et inhérent à leur nature, oui. La violence, c'est ce qui renvoie à chacune et chacun à des sentiments de pensée parmi les plus intensément humains, disons. De la commune au gilet jaune, en passant par la guerre des paysans du XVIe siècle. Ouais. J'ai pris cet exemple lointain exprès du Saint-Empire romain germanique. Pour ne citer donc que ça, mais ils sont légions, tous ces exemples. Nos corps sont virulents, parfois soudés à d'autres corps que l'on ne connaît pas.
C'est ça qui se produit par exemple pendant une émeute ou au cours de certaines manifestations.
Un seul corps, formé par des dizaines et des dizaines d'autres corps, unis de façon éphémère, pour clamer leur colère et dire qu'ils ne sont pas d'accord, ce qui ne signifie pas évidemment qu'on a le droit de tout faire. Mmh. Nous sommes, nous, occidentaux du XXIe siècle, un peu frileux sur le sujet et prompts à mettre sous le tapis toute contestation qui nous dérange. Le philosophe Frédéric Worms.
Cette augmentation de la dénonciation, cette augmentation de sensibilité à la violence, et on a raison de la défendre, est un progrès paradoxal. Ce dont il faut se souvenir, c'est que dans les sociétés les plus violentes, dans les dictatures, dans les tyrannies, c'est si violent que vous n'avez même pas le droit de dénoncer la violence. Et donc quand une société est parfaitement calme, quand il n'y a pas de contestation, méfiez-vous, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le pouvoir règne, le silence règne. Il y a ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est quand vous n'êtes même pas capable de... Vous n'avez pas le droit de descendre dans la rue. Et parfois même, vous ne pouvez même plus ressentir la violence. Imaginez une société sans violence. D'abord, il faut le souligner, c'est possible. Mais c'est pas une société sans conflit. On doit lutter pour une société non violente, mais une société qui, pour autant, ne dénie pas les conflits, parce que les conflits sont là. Et quelqu'un qui dit non-violence au sens « aimez-vous les uns les autres », c'est une posture mystique décisive, très importante, mais malgré tout, il faut quand même dire « oui, il faut une société non violente, mais qui reconnaisse qu'il y a toujours des risques de conflit ».
Le philosophe Frédéric Worms. Alors, deux livres sur l'émeute ce soir dans leur philo. Éloge de l'émeute de Jacques Deschamps, publié au Lien qui libère, et Émeute de Michel Kokoreff, publié chez Anna Mossa. Et leurs auteurs seront vos invités, Patricia Martin, à 20h10.
Vous avez tout dit. Merci, à ce soir, Marion.
Je ne vais pas demander pardon parce que j'ai un pénis. Je n'ai pas à avoir honte car je suis un homme blanc, blond. D'ailleurs, je vais supprimer le ministère des femmes.
Le masculinisme revient.
France Inter, Thomas Legrand.
La Hongrie de Orban, l'Argentine de Milei, l'Amérique de Trump, Musk, Zuckerberg montrent leurs muscles, valorisent la virilité. Est-ce le retour de bâton du féminisme ou une panique réactionnaire ?
En quête de politique.
C'est ce dimanche sur France Inter, après le journal de 18h.
5h58.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Ça souffle encore, Elodie Calac.
Encore beaucoup de vent au sud, des Pyrénées au Massif central et en Méditerranée, des rafales jusqu'à 80 à 90 km à l'heure, 100 pour le vent d'Autan vers Toulouse, jusqu'à 100 à 120 vers le Lauragais, la Montagne Noire et la région de Castres. Haute-Garonne et Tarn restent en vigilance orange jusqu'en milieu d'après-midi. Des pluies s'invitent sur la façade ouest et les Pyrénées. Elles vont progresser vers la Normandie, le Massif central et le Languedoc cet après-midi. Elles seront parfois orageuses, soutenues sur les Pyrénées et les Cévennes. Il neige vers 2000 mètres. Près de l'océan, retour de quelques éclaircies cet après-midi, mais avec des averses et parfois de l'orage. Ailleurs, un soleil de plus en plus voilé. Encore franc ce matin, du nord de la Seine aux régions de l'Est. Ce soir, sur ces régions, ça va se gâter avec l'arrivée des pluies, espacées au nord, mais parfois soutenues et orageuses sur un quart sud-est. Il fait encore très doux, mais ça commence à baisser par l'ouest. 16 degrés attendus à Brest cet après-midi, 18 à Caen, Tours, Montauban, Toulon, 20 à Marseille, 21 à Cambrai et à Lyon, et 22 à Paris, Nancy, Besançon ou Grenoble.
Et voilà, Ali Badou qui est de retour pour le début du 6-9. Rebonjour Ali, c'est parti.
Rebonjour Marion, c'est parti. Les biplins. Lundi, qu'il est
6h.
Bravo.